terror states.
Et non, nous ne sommes toujours pas des terroristes. Je vous avais promis le retour de Pascal Rullier pour cette 178e divergence numérique. Hélas, divers problèmes familiaux et d'occupation font qu'il ne sera pas là avec nous aujourd'hui. Une 178e divergence numérique dans laquelle bien, nous parlerons domaine public après la revue de presse de la semaine 38 proposée par l'April. Note votre hebdo du libre sur Divergence FM, Radio Larzac et Radio Escapade fera donc une spéciale domaine public à l'occasion du passage de l'œuvre de Guillaume Apollinaire dans ce fameux domaine public, et ce, aujourd'hui même. C'est Alexis Kaufmann de Framastoff, mais pas que, on va le voir, qui nous accompagnera sur ce dossier. Il ne sera pas tout seul, puisqu'il sera accompagné de Véronique Boucali, sa comparse pour le projet Romaine Lubrique, le site qui enlace le domaine public. Et puis, ça va nous occuper une bonne partie de l'émission. Nous aurons aussi Florent Robin, qui fera une apparition dans Divergence Numérique, car c'est notre lettré divergent. Qui nous en dira plus sur Apollinaire, mais pour l'heure, sans plus tarder, c'est la revue de presse de l'April.
Liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire
de l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de poutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 38, année 2013. Salut Manu.
Salut Nico.
Salut Luc.
Bien, mon cher Manu, si tu peux nous faire le sommaire.
Alors, une bonne revue de presse, bien costaud. On va discuter de Québec, de problèmes d'espionnage encore une fois, DRM, un petit tour au bout du pont de l'Arne, Open Data, la quadrature du net, IBM et des grosses pépettes. Et pour finir, on parle de Munich et d'Ubuntu.
Canoë, logiciel libre, Québec pourrait sauver 265 millions de dollars, un article de la rédaction. Donc on est au Canada.
Bon alors c'est un institut de recherche qui a fait une enquête en fait sur ce que l'administration de Montréal pourrait gagner en passant au logiciel libre.
Donc c'est IRIS, Institut de recherche et d'information socio-économique de Montréal.
Voilà, et c'est le gouvernement du Québec, pas Montréal, juste Montréal. Alors on sait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions autour du passage au logiciel libre pour le gouvernement québécois, puisqu'ils se sont retrouvés face à la fin du support de Windows XP et qu'il fallait tout renouveler. Donc il y a une association
Facile
qui a beaucoup milité là-dessus, et ils ont été très déçus. Et finalement, la situation ressemble un petit peu à ce qu'on a en France, c'est-à-dire des politiques qui, dans les paroles, sont favorables aux logiciels libres, ont même mis en place une sorte de groupe de travail, un truc un peu équivalent, mais dans les faits, arrachent du propriétaire en faisant des décrets pour contourner les procédures d'appel d'offres.
Il y a des grosses sommes qui sont en jeu, il est question de plus d'un milliard et demi de dollars, et là,
Canadien,
et là, l'Institut IRIS dit que chaque année, on pourrait en économiser 265 juste en passant à du libre.
Voilà, donc comme en France, on attend toujours les actions en réalité et pas juste des bonnes intentions lancées dans la nature.
Le Monde.fr, le gouvernement américain a-t-il tenté de mettre un accès secret dans Linux ? Un article de la rédaction.
Alors c'est le gros troll de la semaine, gros troll qui est basé sur un geste de Linus Torvald.
Ouais, alors Linus Torvald, qui est un troll à lui tout seul, ça c'est clair. Et donc là, dans une conférence, on lui a posé la question en fait, par rapport à tout ce qui se passe avec la NSA, Prism et compagnie,
On lui a demandé s'il avait été sollicité pour mettre une backdoor dedans.
Donc un Troyen, un cheval de Troie.
Voilà, et donc oui...
Il a dit non. Il a dit non. Attends, justement, c'est ça qui est important. Voyons, allez.
Il a dit non, mais il a fait oui de la tête.
Voilà.
En même temps.
Donc, effectivement, mais il a dit non. C'est important.
Oui, c'est important. Mais il y a eu pas mal de choses. Il y avait eu le cas aussi sur OpenBSD, il me semble, du contributeur.
Mais je crois que ça n'avait pas été prouvé.
Ils n'avaient rien trouvé.
Mais là, en fait, Linus Torvalds, il est connu pour être un gros troll. Il fait toujours des grosses blagues. Il est super grande gueule. Il est hyper provocateur. Il y a quelques temps, il avait fait
un autre geste.
Oui, il avait montré son majeur sur une vidéo quand on lui demandait ce qu'il pensait de Nvidia. Linus Torvalds, c'est un gros provocateur. Donc je pense qu'actuellement, il doit se fendre la poire chez lui.
Oui, parce que ça a été repris dans beaucoup de médias. Et en gros, parce que Linux, c'est utilisé dans tellement d'endroits, dans tellement d'environnements. Les téléphones portables, par exemple, avec Android. Donc imaginez qu'il ait fait ce petit oui de la tête délicat, intelligent, et qui vous indique qu'il n'a pas le droit d'en parler, parce qu'effectivement, il risque d'aller en prison, tout simplement.
Il y a une autre personne qui a dit ça derrière.
Exactement.
Fait rien dont on puisse en parler. Et donc, moi, je pense que c'est la provoque. L'article est pas mal, parce qu'il rappelle qu'avec le logiciel libre, tout le monde peut voir le code source.
Oui, et que même s'il avait mis un Troyen, c'est pas sûr qu'on l'aurait vu, mais en tout cas, il y a toutes
les possibilités. En tout cas, c'était compliqué.
Il y a quand même eu déjà des précédents où il y avait des personnes mal intentionnées qui avaient essayé d'injecter du code malveillant dans Linux, et ça s'était retrouvé assez rapidement, et ça avait tout de suite été dégagé. On ne peut pas faire de choses n'importe quoi, n'importe comment.
Surtout qu'après un coup comme ça, je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui vont aller jeter leur nez dedans.
En tout cas, n'oubliez pas, le logiciel libre, c'est la seule chose qui vous garantit la traçabilité des sources, et donc venez jeter un œil, c'est bien.
Actualité.com, DRM, écosystème fermé, une TVA forte contre Kindle et iPad, un article de Nicolas Gary. Donc l'affaire a commencé la semaine dernière dans une commission parlementaire où un député proposait que l'on interdise les gens qui vendent des livres par correspondance d'offrir les frais de port. Donc les gens qui étaient visés, c'était bien sûr Amazon, qui a les moyens de payer les frais de port et qui, évidemment, comme le prix du livre est réglementé, se met nécessairement en position bien plus confortable en termes de concurrence. Et là-dessus, Isabelle Attard, qu'on connaît bien, hein, puisque...
l'a bien connue et l'a bien appréciée.
Oui, puisqu'elle est très pertinente sur nos sujets et très réactive également. C'est elle qui a posé des questions à tous les ministères pour savoir quelles étaient leurs dépenses informatiques. Lui est rentrée dans l'art, il faut dire qu'ils sont pas du tout du même bord, et elle a dit la vraie question c'est pas celle-là, si on vote ça, ça change rien du tout, la vraie question ce sont les e-books, les livres électroniques, et qui sont bourrés de DRM, notamment pour ceux qui sont vendus par Amazon.
Ouais. DRM, les menottes numériques.
Les menottes numériques, ouais. Ouais, donc les DRM, en fait, c'est quand même quelque chose qui est assez particulier au monde du numérique, parce que, en fait, les services qui sont proposés par Apple, ce sont bien des services, ce sont pas des livres
Apple, Amazon.
Et Amazon et ouais. Les autres, et en fait, les DRM ne sont valables que dans le monde du service, parce que un livre, une fois que vous l'avez, bah vous l'avez, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Aujourd'hui, là, vous n'avez pas du tout les droits de faire ce que vous voulez, vous êtes complètement dépendant du bon vouloir d'Amazon, qui peut vous supprimer vos livres, vous interdire de les lire, de les louer, de les vendre, de les prêter.
Enfin, ils ne suppriment pas les livres, pour le coup. Ils voilà. Suppriment le droit de les
droit
lire.
De les lire.
La position d'Isabelle Attard s'appuie sur une position de l'Europe, qui dit, à partir du moment où le client n'est pas propriétaire de sa copie, c'est-à-dire propriétaire, une fois qu'on est propriétaire, on en fait ce qu'on veut, on a le droit de le revendre, etc., ça n'est plus un livre, c'est un service de lecture, ce qui est très différent, et on n'est pas du tout dans la même catégorie de commerce. Et donc elle dit, bah, comme on n'est pas dans la même catégorie de commerce, c'est que le consommateur y perd.
Il y a plein de clauses.
Il y a plein de clauses dans tous les sens. Et puis si, là, on parle en plus de l'e-book, mais c'est pareil dans la vidéo à la demande, par exemple. Hein. Eh bien, c'est pas du tout le même service. Le client en a beaucoup moins pour son argent, et donc du coup, on n'est plus dans ce principe de culture qui peut se répandre facilement, etc. Donc on taxe à 19,6 et non pas à 5,5.
Et ça, je pense que ces entrepreneurs qui vendent donc des droits de lecture, passer à 20% plutôt que 5%, ils vont vraiment faire la tête, ça va leur plomber les bénéfices. Donc c'est une approche que je trouve originale et intéressante.
Alors malheureusement, c'est pas un projet de loi, c'est quelque chose qu'elle a fait en réaction à cette proposition qui lui semblait absurde, donc c'est un côté un peu provoque, mais c'est extrêmement pertinent, et donc ça fait plaisir à entendre, et ça lance le débat, parce que c'est paru à droite à gauche, et ça fait quand même des vagues. LaDépêche.fr, bout du pont de l'Arne, les logiciels libres sont accessibles. Un article de la rédaction.
Donc on parle d'une association, l'association qui s'appelle Loli Potou. Donc ils sont basés dans le sud, pas loin.
Sud-ouest, du côté de Mazamet, donc pas très loin. Et un bon nombre de nos auditeurs, c'est un GUL, hein, c'est une association locale, ce genre d'association dont on aime parler régulièrement.
Comme tout GUL, ils seront ravis de vous accueillir, de vous aider à vous mettre au logiciel libre. Donc bah, allez-y, n'hésitez pas à les solliciter, ils pourront vous aider à vous lancer là-dedans. Et vous verrez que le monde est bien meilleur de ce côté-là de la barrière.
Ils ont l'air d'avoir une forme de permanence à l'école du bout du pont de l'Arne, le jeudi à 20h30. Et bon, l'article remonte toute une pataquès de sujets sur lesquels ils ont l'air de s'intéresser. Un prisme, mais aussi les supercalculateurs et les téléphones portables.
Voilà, c'est une parfaite mise en pratique du principe d'agir local, penser global. Et l'article est bien, il est court, hein, il est assez dynamique. Mais on voit que la personne qui l'a écrit sait de quoi elle parle. Lagazette.fr, Open Data, ministère, ouvrez vos données. Sommes le Premier ministre. Un article de V. Fauvel, nous ne connaîtrons pas son prénom, peut-être Vincent, Véronique, on ne sait pas.
Voilà, donc bah, ça fait un peu la suite, ou même le parallèle, on va dire, par rapport à la circulaire Hérault. Là, ça concerne en fait l'ouverture des données de la France. Et puis, bah, un peu comme la circulaire Hérault, c'est un coup en avant, un coup en arrière.
Non, tu peux pas dire ça, je veux dire... Il y a une vraie politique d'open data depuis 3 ans en France. Hein, ça a démarré très très fort.
Ça se sent.
Mais si, si, il y a 3 ans, ils ont mis ça en place et il y avait plus de 300 000 jeux de données qui ont été mis à disposition.
Et aujourd'hui, il y a plus de 300 000 jeux de données qui sont mis à disposition.
Mais pas beaucoup plus. Oui.
Bah, je crois que c'est le même nombre.
C'est à peu près sensiblement pareil. En gros, on n'a pas bougé en 3 ans.
Voilà. Et donc, tout ça, ça a une bonne impression de coup de pied au cul. Il faut se remuer. À mon avis, il y a des bonnes bases. Il fait un démarrage, mais il n'y a personne qui a poursuivi le travail. Donc, Regard Citoyen remonte tout ça, ils analysent, ils creusent.
Et donc, sur cette affaire-là, ils les ont un petit peu taclés, notamment en faisant remarquer que l'Élysée ne donnait pas l'exemple.
Et oui, ils ont des données, mais qui ne sont pas libres, et loin de là. Donc, il y a au moins un travail à faire en partant du haut. Donc, c'est bien que le Premier ministre en parle, mais c'est peut-être parce que voilà, le haut est trop haut pour lui. Je ne sais pas.
Petit regret de ma part, je ne sais pas si c'est dans la circulaire, en tout cas, ce n'est pas dans l'article, c'est des questions importantes sur l'open data, c'est les formats de données. C'est la pérennité des données. Est-ce que c'est envoyé régulièrement? Est-ce que, quand ce sont des infos qui sont mises à jour, est-ce qu'elles elles arrivent suffisamment tôt pour qu'on puisse les exploiter et pas se retrouver dans des délais trop brefs? Est-ce que le format est stable? Est-ce que c'est toujours pareil? Est-ce que c'est documenté? Toute une série de petits éléments qui fait que, voilà, balancer des données, c'est une chose, mais il y a 1000 façons de le faire et effectivement, on peut faire ça vraiment salement ou de telle sorte que d'autres acteurs ne puissent pas les utiliser ou difficilement. Et ça, c'est des points importants et c'est dommage que ce ne soit pas évoqué ici. Numérama, la quadrature du net censurée par le Robocop YouTube, un article de Guillaume Champeau.
Au Robocop, parce qu'il s'agit d'une vidéo de Robocop avec le tueur, la machine tueuse qui est un peu lâchée au petit bonheur. Oui. Et tout ça en parallèle de l'ACTA et des lois liberticides qui ont presque été mises en place. Donc c'était une vidéo un peu assez sympathique, de 3 oui. minutes.
Hein, alors nos amis de la quadrature aiment bien faire des détournements. Ils ont repris la scène de Robocop, hein, le vieux film où il y a une sorte de robot policier qui échappe au contrôle des gens qui en font la démonstration et qui flingue un costard-cravate dans le comité d'administration de l'entreprise qui a financé le projet. Scène assez mythique et assez symbolique. Et donc, ils avaient évidemment fait un parallèle en doublant le personnage et ils avaient tout un texte sur ACTA, etc. Et au travers de la politique anti-piratage, cette vidéo a été supprimée de YouTube.
Voilà, donc ça a quand même fait un peu le buzz, parce qu'une vidéo qui dénonce les problèmes de droits d'auteur qui se fait censurer pour des questions de droits d'auteur, c'est quand même assez marrant.
En même temps, c'était la vidéo.
En même temps, c'était la vidéo, mais bon, c'était un peu présenté de manière parodique ou détournée. Donc,
c'est une parodie.
Voilà, c'était une parodie, donc c'était un peu violent, moi, je trouve, de la part de MGM, puisque c'est de ce groupe-là qu'il s'agit. MGM a demandé la censure, alors que bon, pour moi, ça tombe plus dans le domaine de la parodie ou de la rigolade que vraiment la volonté du piratage ou autre.
Alors, la vidéo n'a pas disparu, ils n'ont pas été attaqués les serveurs de la quadrature.
Alors, l'article précise que c'est probablement le résultat de Content ID, qui est un système automatique qui a été mis en collaboration entre les ayants droit et YouTube, et qu'il est possible que le machin ait été traité de façon automatique, un petit peu lâche, mais ce qui montre le problème que ça pose, c'est-à-dire qu'on n'a plus de discernement dans la façon de faire.
Au moins, c'est encore hébergé sur le site propre de la quadrature.
Oui, parce qu'il y avait plusieurs versions.
Voilà, et là, eux, avant qu'on aille l'effacer, il va falloir qu'il y ait de la justice qui passe derrière.
Il y a d'autres versions sur YouTube également qui sont toujours en ligne.
D'accord, donc allez jeter un œil, parce que c'est rigolo. Et puis, il faut soutenir la quadrature, qui défend nos libertés, rappelons-le.
France 3, Languedoc-Roussillon, IBM va investir 750 millions d'euros à Montpellier pour son logiciel Linux. Un article de Fabrice Dubot.
Alors, je crois qu'on pourrait parler $1 milliard, parce que c'est en parallèle à ce qui avait été fait il y a une dizaine d'années,
oui.
Où IBM avait annoncé, ils avaient dépensé $1 milliard de promotion des logiciels libres, enfin Linux surtout, hein, le noyau et les systèmes d'exploitation.
L'article nous apprend quand même que Linux appartient à IBM, hein, c'est ce que je dis dans le titre. Hein.
Bah, en fait, il appartient à tout le monde, quelque part, il n'y a pas de mal.
Bah, la version d'IBM, on va dire, mais c'est vrai que le pronom est un peu trompeur.
Donc là, il est question de grosses pépettes et d'un lieu en particulier, Montpellier.
Et oui, donc développement important, ça va faire de l'activité sur Montpellier. Donc, tant mieux pour eux. Il s'agit de mettre en place un service client et des serveurs pour faire des services en cloud, du service hébergé en nuage, comme on dit. Oui, c'est vrai qu'il y a 10 ans, ils étaient arrivés tambour battant en disant « Nous, on investit lourdement dans Linux ». Et il y a 10 ans, la reconnaissance n'était pas la même qu'aujourd'hui. Dans le monde professionnel, GNU Linux n'était pas considéré comme un truc sérieux. Les logiciels libres, c'était encore considéré comme des trucs d'amateurs. Et le fait qu'une boîte aussi sérieuse qu'IBM mette le paquet d'investissements là-dedans, ça avait été quand même un signal très très fort. Et ben, on voit que 10 ans après, ils recommencent, donc ils sont pas dégoûtés, ça s'est pas mal passé, bien au contraire. ZDNet, Munich incite ses citoyens à passer de Windows XP à Ubuntu, un article de Thierry Noisette.
C'est pas un nouveau sujet. Munich, on le sait, toute la cité est passée au libre. Et là, eh bien, ils profitent, je dirais, de l'obsolescence programmée de Windows XP.
L'obsolescence programmée, c'est quand même méchant. Hein.
Ah, mais c'est
Windows
bien
XP,
ça dans
ils ont quand même, non, ils ont quand même... Ça, c'est de la mauvaise foi, parce que Windows XP, c'est quand même plus de 10 ans de vie.
Largement. Mais
et
y a
dans le monde de l'informatique, c'est quand même pas mal.
C'est pas mal du tout, mais en attendant, il y a une date, là, de péremption, on va dire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de support de la part de Redmond. Et donc, tous les problèmes de sécurité, et Dieu sait qu'il y en a, tous ces problèmes qui vont apparaître dans le futur ne seront plus forcément corrigés par Microsoft. Et donc, pour éviter de se retrouver un poil sur Internet, Munich recommande à ses citoyens et distribue des versions de Ubuntu.
Alors, on rappelle que Munich, la municipalité de Munich, est passée au logiciel libre. Ça fait partie de ces municipalités qui a mené le projet jusqu'au bout. Et ça n'a pas été sans mal non plus, parce que Microsoft a fait les enchères descendantes en disant « Moi aussi, vous restez chez nous, on va vous faire pas mal de rabais. Hein. » C'est souvent comme ça que ça marche. Et c'est un des trucs qui, dans les municipalités ou les entreprises qui veulent migrer, qui fait un peu mal au cœur, parce que souvent, c'est un argument de négociation. Et il n'y a pas nécessairement le truc, c'est en disant « Attention, si vous ne nous faites pas un tarif, on se barre. »
Et c'est Steve Ballmer en personne qui avait déboulé à Munich pour aller faire la défense de son
entreprise.
C'est
dur, le pauvre était en vacances en Suisse et il a fallu qu'il interrompe ses vacances et ça, c'est pas drôle.
Et ça montre aussi, quelque chose d'intéressant là-dedans, ça montre aussi le gros avantage du logiciel libre, c'est que le logiciel libre, c'est une situation qui pourrait pas arriver parce que là, Microsoft a arrêté le support de Windows XP, il n'y a plus personne qui peut le supporter. Donc aujourd'hui,
c'est vrai qu'on a du mal à supporter Windows.
On a du mal à supporter
c'est
Windows.
C'est insupportable.
Mais si on avait un logiciel, un OS avec du logiciel libre, et ben, il suffirait que quelqu'un ait la bonne volonté pour continuer le support et on n'aurait aucun problème à faire tenir une version pendant des années sans avoir aucun problème à long terme. Alors que là, y a une boîte qui dit stop et tout le monde est obligé de dire stop.
Eh bien, on a fait le tour. Manu, Nicolas, merci beaucoup.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, tout le monde.
Et au revoir, tout le monde.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'April, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fievet et Nicolas Vino.
Et on les remercie chaudement, nos amis apriliens, pour cette fameuse revue de presse. Je vous le disais en sommaire de cette émission, c'est aujourd'hui même que l'œuvre de Guillaume Apollinaire, né Wilhelm Albert Vladimir Ritz Apollinari de Kostrowicki Herbwatz, impossible à se souvenir, un sujet polonais de l'Empire russe naturalisé français en 1916 grâce à son engagement pour la France dans la guerre 14-18, considéré comme l'un des poètes français les plus importants du début du XXe siècle. Il meurt deux jours avant l'armistice de 1918 de la grippe espagnole, affaibli par la blessure à la tête que la guerre lui a infligée. Et il tombe aujourd'hui dans le domaine public après 94 années et 272 jours. Diverses dérogations comme mort pour la France ont permis à ces ayants droit de poursuivre leur exploitation de ce répertoire assez longtemps. Le dernier ayant droit en date était Gallimard. Mais laissons la parole à Guillaume Apollinaire.
Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont le demain. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le fond de nos bras passent les éternels regards longs de silence. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente, et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni des amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure.
Un enregistrement d'époque, vous l'aurez tout de suite reconnu, c'est sur cylindre de cire, si je ne m'abuse. Je vois Florent Robin qui acquiesce de la tête. Donc nous saluons nos invités aujourd'hui, Alexis, Véronique et Florent. Bonjour à tous les trois.
Bonjour, bonjour Gilles.
Bonjour.
Sur cette spéciale domaine public, on va commencer par une leçon de choses. Le domaine public, c'est un truc que tout le monde connaît comme étant un espèce de mot qui veut dire quelque chose, souvent qui veut dire quelque chose auquel tout le monde a droit, mais le domaine public, c'est aussi la rue en face de chez vous, c'est aussi des tas d'autres choses. Qu'est-ce que le domaine public pour démarrer?
Alors, quand tu parles de rue, alors là, il ne faut pas le confondre avec l'espace public.
Et l'espace, alors, mais...
Quand tu dis domaine public, tout le monde connaît, et ben, pas forcément. Les gens ont tendance à confondre avec libre de droit, par exemple. Et, non, il ne s'agit pas du tout d'être libre de droit. Les droits sont toujours là. Par contre, ils n'appartiennent plus exclusivement à l'auteur et à ses ayants droit, parce que il se trouve que les droits de l'auteur se poursuivent aujourd'hui bien après sa mort. Aujourd'hui, on en est à 70 ans après sa mort, ce qui a connu d'ailleurs, c'est une période qui a été fixée il n'y a pas longtemps, mais elle a eu des évolutions successives, partant d'une période assez courte, assez, moi j'ai envie de dire, parce que je suis militant, hein, j'ai envie de dire assez raisonnable. La dernière en date, c'était 50 ans, et aujourd'hui, sous une pression politico-commercialo-industrio-culturelle, on se retrouve avec 70 ans. Donc, ce qui fait que normalement, Apollinaire aurait dû être dans le domaine public bien avant aujourd'hui. Mais, comme tu l'as signalé, il a eu droit à des prorogations, à des prolongations, où notamment, quand on est mort pour la France, on rajoute 30 ans. Quand l'œuvre a traversé les deux guerres, on rajoute la période très très précise qui a été définie par les traités des guerres. Et d'habitude, une œuvre entre dans le domaine public au 1er janvier qui suit les 70 ans de la mort de l'auteur. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le Domain Public Day, c'est la fête du domaine public, c'est généralement le 1er janvier parce que c'est là où tout le monde arrive, les auteurs morts il y a 70 ans. Pour Apollinaire, c'est un cas assez particulier, puisque lui, il cumule beaucoup de choses. Et donc, c'est, comme tu l'as signalé, c'est 94 ans et 272 jours. Ça tombe au milieu de l'année. Et le fait est que, d'ailleurs, peu de grands médias se sont intéressés à cette date. Alors que nous, on a fait le calcul très précis avec nos amis juristes. Et voilà. Et c'est assez intéressant parce qu'on est quasiment à 100 ans après sa mort. Et ça pose la question, notamment à l'ère d'Internet, à l'ère du partage, des œuvres facilitées justement par cet outil, de cette durée qui est... qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pendant ces 70 ans, ce sont les héritiers d'Apollinaire qui accordent, qui conservent les droits. Et si on veut utiliser, adapter, copier, on doit leur demander l'autorisation. Qu'ils sont en droit d'accepter ou de refuser. Généralement, ils font des contrats d'exclusivité justement avec des éditeurs comme Gallimard. Et nous, public, on n'y a pas droit. Alors, c'est normal qu'un auteur et éventuellement sa descendance puisse en profiter, etc. Mais 70 ans, on tombe sur les petits-enfants, voire les petits-petits-enfants. Voilà, ça pose question en tout cas.
Oui, mais ça me fait penser justement à ce qui est retransmis dans le documentaire Copier n'est pas volé, où on revient sur les paroles du rapporteur sur la loi de droit d'auteur, qui disait, en parlant des textes, mais que évidemment les auteurs ont des droits sur ces textes, mais quand ils sont bons, sous-entendu les textes, le public les lit, les relit, les apprend par cœur, les répète autour de lui et en fait sa propriété. Si un auteur est excellent, tout le monde va se l'approprier. Il suffit de l'entendre une fois et ça sera tellement bon qu'on va s'en souvenir et on n'aurait presque pas le droit de faire ce que notre cerveau fait naturellement, à savoir de s'en souvenir, de l'échantillonner dans notre tête et de le répéter autour de nous. Or, tout le monde le fait. Enfin, c'est quand même hallucinant. Un tube qui va sortir demain dans les charts, s'il plaît à tout le monde va l'apprendre par cœur et va le chanter dans la rue et théoriquement, on n'aurait pas le droit de le faire. Enfin, on est en plein là-dedans, quoi.
On est effectivement en plein là-dedans. Alors, donc, on a un cas particulier et intéressant avec Apollinaire qui entre dans le domaine public. Certains disent qu'il tombe dans le domaine public, mais l'expression est un petit peu péjorative. Donc, il vaut mieux entrer, passer, voire s'élever dans le domaine public.
Il pourrait se faire mal en tombant.
Effectivement. Et en l'occurrence, on se fait pas mal puisqu'il est enfin accessible à une majorité de personnes. Ce qui est aussi intéressant, c'est que le domaine public n'est pas défini par la loi en tant que tel. C'est juste la période où les droits cessent. c'est une définition par la négative, c'est une définition en creux. Mmh. Et ça aussi, c'est intéressant. Et on ne peut pas, par exemple, aller devant, devant le tribunal pour défendre une œuvre qui est entrée dans le domaine public et qui aurait été abusivement enfermée par je ne sais quel éditeur, etc. On ne peut pas au nom du domaine public parce que juridiquement, il n'est pas inscrit dans la loi.
Mmh. Notre-Dame de Paris et Disney, quoi. On en parlait avec notre ami De Fred, qui nous disait que en fait Disney avait modifié plein de parties du texte original pour en faire sa propriété, en tout cas de cette version-là, ce qui est une manière quelque part de se réapproprier quelque chose qui était déjà disponible pour tout le monde, quoi.
C'est d'autant plus terrible que le nom de Victor Hugo n'apparaît même pas au générique.
Ouais, je pense qu'ils n'avaient peut-être pas le droit, finalement. Ils ont tellement trituré l'œuvre, peut-être qu'ils ne pouvaient plus dire d'après Victor Hugo. Je ne sais pas. Alors, en tout cas, le domaine public, ça ne concerne pas que la poésie ou la musique. J'imagine que ça concerne aussi d'autres domaines.
Ah, c'est toutes les œuvres de l'esprit auxquelles on accorde un caractère original. Mm-hmm. Donc, évidemment, ça peut être du texte, du son, de la vidéo... Ça peut être des sculptures aussi, l'architecture. Mmh,
mmh. Alors, c'est 50 ans qui avaient lieu avant la directive de 97 qui l'a poussé à 70 ans. On a assisté, notamment aux États-Unis aussi, à des batailles de major companies qui, quand elles voient l'échéance se rapprocher, font tout ce qu'ils peuvent en termes de lobbying pour influer sur le législateur afin qu'il... augmente encore une fois cette durée. Est-ce que la directive de 97, vu qu'elle est européenne, a instauré les 70 ans dans tous les pays de l'Union ?
Oui, voilà, il y a eu une tentative. Parce qu'il y a un autre problème, c'est qu'il n'y a pas une harmonisation internationale des droits, ce qui fait qu'au Canada, on en est resté à 50 ans, et le Canada, il y a une petite enclave francophone.
Oui, qui
s'appelle le Québec. Et sur des sites québécois, on trouve des auteurs, comme par exemple Albert Camus, qui, lui, est dans le domaine public au Canada, puisqu'il est mort il y a plus de 50 ans, n'est pas dans le domaine public français, parce qu'on doit encore attendre 70 ans, mais sur des sites canadiens, on propose l'intégrale, l'étranger, la peste, etc.
Donc,
en
voilà.
Libre téléchargement.
Ouais, donc ça pose vraiment une question.
Et je voudrais dire aussi, ça pose des problèmes au niveau des traductions. Et j'ai en tête la situation des Hauts du Hurlevent, d'Emily Brontë. Le texte, bien sûr, est dans le domaine public, mais la traduction ne l'est pas. Elle appartient à Monsieur Gallimard, à la famille Gallimard. Donc ce qui fait que si on veut maintenant donner une nouvelle traduction des Hauts du Hurlevent, on n'a pas le droit d'utiliser le titre « Les Hauts du Hurlevent ». Il faut prendre « Hurlevent des monts » et faire tout un tas de choses autour du titre, puisque le titre est déposé et a encore des ayants droit.
Tout à fait. Là, les traductions sont des œuvres originales qui donnent droit à de nouveaux copyrights. Et si on veut avoir... Nous, on a par exemple des projets de traduction par nos propres soins ou qui iraient directement dans le domaine public. Mmh, mmh. Par exemple, les grands russes, par exemple. Je pense aussi... on envisage aussi des œuvres de science-fiction de Lovecraft.
Oui.
Lovecraft.
Lovecraft. Ouais.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Lovecraft, c'est autre chose.
C'est plus sur Robert.
Howard Philip Lovecraft, l'immense écrivain de fantastique.
Voilà. En tout cas, mettre en valeur le domaine public, c'est intéressant parce qu'il y a des trésors à découvrir ou redécouvrir. C'est aussi se poser la question des droits d'auteur, de leur durée. Du partage, etc.
Si on est au Canada, on est dans une réalité autre que si on est en France, surtout pour un auteur français. Enfin, on se rend bien compte que là, il y a quelque chose de totalement schizophrénique dans cette société soi-disant mondialisée. Donc, il y a du pain sur la planche sur ce terrain-là. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez lancé votre initiative Romaine Lubrique ?
Alors, notre projet Romaine Lubrique est né justement de la découverte du passage d'Apollinaire aujourd'hui. Et donc, la première chose à laquelle on s'est attaché, c'est un petit peu d'aller explorer l'œuvre d'Apollinaire. Parce que moi, j'avoue que j'avais de vagues souvenirs d'enfance qui n'allaient pas plus loin que le pont Mirabeau, quelques poèmes d'alcool, etc. Donc voilà, donc la première chose, c'était qui est Apollinaire et essayer de donner envie de découvrir ou redécouvrir son œuvre. Et là, je vais passer la parole à mes deux experts.
Moi, j'aurais une chose à dire sur Apollinaire, qui lui-même essayait de diffuser des auteurs qui n'étaient pas connus, des auteurs du XVIIIe siècle. Il ne faut pas oublier qu'Apollinaire était un grand érotomane. Et c'est grâce à Apollinaire qu'on a eu la première anthologie diffusée dans le grand public du Marquis de Sade. une anthologie qu'il publiait dans une collection qui s'appelle Les grands maîtres de l'amour. Il y avait un volume consacré aux écrits du marquis de Sade, ce qui était absolument impensable, édition qui date de 1909. Donc de son côté, Apollinaire aussi était un divulgateur de la culture.
Apollinaire qui d'ailleurs, érotomane, est né dans des conditions, Véronique, tu m'en parlais tout à l'heure, finalement dans des circonstances qui peut-être le prédisposaient à cette érotomanie-là.
Oui, des circonstances un petit peu aventureuses, effectivement. Il est né à Rome, apparemment d'un père inconnu, et sa mère faisait partie de la noblesse polonaise, et qui, elle vivait de ses charmes, en fait. Et ils se sont déplacés ensuite dans le sud de la France, et c'est là qu'elle a pu continuer à travailler, notamment dans les casinos. Tandis que Apollinaire et son jeune frère suivaient une scolarité tranquille. Et puis, très rapidement, il est monté à Paris. Et c'est vrai qu'on parlait de son rôle de divulgateur de la culture à l'instant. C'est aussi quelqu'un qui a énormément participé à la vie artistique de son temps et qui a perçu surtout les avant-gardes qui commençaient à émerger, et notamment en peinture.
C'est lui qui utilise le premier le terme surréalisme.
Oui, il a qualifié un de ses drames de surréaliste. Ça s'appelait les Mamelles de Tirésias, mais c'est vrai que c'est un auteur qui s'est essayé à plein de formes très diverses, qui a fait énormément d'expérimentations littéraires, et on a tendance, c'est vrai, dans les manuels scolaires à le présenter comme le père de la modernité, c'est vrai, mais on se réduit souvent à quelques œuvres, quelques poèmes, quelques calligrammes. Son œuvre est plus complexe que ça, parce qu'elle se construit dans une tradition littéraire, et en même temps, il y a sans arrêt des tentatives nouvelles, notamment au niveau de la métrique dans la poésie, notamment au niveau de la ponctuation. Toute une œuvre extrêmement variée qu'on a tendance à réduire souvent, et c'est justement l'occasion de redécouvrir tout ça.
Ne pas oublier aussi qu'Apollinaire a publié des pornos. A publié des romans porno, je pense aux 11 000 verges et aux mémoires d'un jeune Don Juan.
Oui, les 11 000 verges, c'est d'ailleurs
un ouvrage...
Qui sont
des romans merveilleux pornographiques.
Alors, merveilleux, pornographiques. Mais justement parce que s'inspirant énormément de la tradition sadienne.
Du 18e,
avec également des traits d'humour tout à fait savoureux.
Ah, les 11 000 verges, c'est merveilleux. Il y a des trucs complètement délirants, complètement trash et complètement sanguignolants.
Alors justement, de ce point de vue-là, c'est vrai que l'œuvre d'Apollinaire, on a souvent tendance à la voir comme extrêmement lyrique, comme s'appuyant beaucoup sur ses drames amoureux. On entend ce ton, justement, dans le Pont Mirabeau, dans l'enregistrement qu'on a. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi quelqu'un qui a énormément d'humour et de fantaisie. Et c'est notamment dans son œuvre en prose qu'on le ressent beaucoup.
Et ne pas oublier aussi que la chanson du mal-aimé était un très très grand poème pédérastique. Ça, on le sait moins.
C'est vrai, je ne savais pas.
Voilà. Et ça, c'était Ferré à chaque fois qu'il chantait un extrait de la chanson du mal-aimé. Il précisait bien que c'était un grand poème pédérastique d'Apollinaire.
Donc voilà, Apollinaire, maintenant qu'il est tombé dans le domaine public, je pense que
Il s'est élevé
dans le domaine public. Je pense que c'est le moment pour tout le monde de relire ses œuvres. Alors évidemment, Gallimard perd un de ses trésors de guerre, on va dire. Du coup, tous les autres éditeurs de poche vont s'empresser ou se sont déjà empressés d'éditer les trucs.
La concurrence est là maintenant. Il y a plus de monopole, il y a une concurrence. Donc libre à chacun d'apporter, de proposer quelque chose, d'apporter de la valeur ajoutée. Nous, par exemple, sur notre site, on va proposer les alcools au format e-pub, le format pour les liseuses, pour les tablettes numériques. C'est pas si simple parce que les poèmes, il faut respecter toute une mise en forme. C'est pas comme un texte classique, un roman beaucoup plus simple à mettre en forme.
D'autant plus vrai pour Apollinaire.
Plus vrai, oui, parce qu'il était très très précis sur le début de tel vers, tel machin. Là, c'est en italique, là, c'est dans les coins. C'est
les calligrammes.
Écrit plus grand, écrit plus petit. Alors, les calligrammes, on va avoir un petit peu de mal. Ça.
Le défi ultime,
ce sont les calligrammes. Mais on va proposer un e-pub qu'on est de qualité. Et quand on regarde ce qu'il y a actuellement sur Internet, notamment on parlait des sites québécois qui le proposent depuis longtemps, on estime que ce n'est pas au niveau. Et là, on va essayer d'apporter un e-pub de meilleure qualité.
Et ne pas oublier quand même que Gallimard, c'était la NRF, donc c'était la Nouvelle Revue Française qui était dirigée par André Gide. Et quand ils ont publié Apollinaire, c'était une œuvre absolument pas rentable. C'était avec beaucoup de courage qu'ils publiaient des ouvrages comme ça sous l'influence d'André Gide.
Oui, donc voilà, ne pas trop leur jeter la pierre, c'est ça que tu veux dire.
Absolument, parce que il y a toujours dans les aspects d'éditeurs comme ça, on dit bon maintenant c'est des vautours, mais à l'époque il fallait avoir le courage de publier des auteurs comme ça qui ne seraient jamais rentables, qui sont devenus rentables 50 ou 70 ans après. Pas oublier que les œuvres d'André Breton, il n'en a pas vendu beaucoup, hein, Nadja au départ, mais c'est quand même Gallimard qui l'a publié, et des œuvres qui n'étaient pas rentables pendant des années.
Puis c'est aussi une façon de réunir des textes qu'on a eu du mal à trouver. Enfin, il y a tout un travail de recherche derrière qui a été fait.
Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est un peu que le meilleur éditeur gagne, quoi.
Voilà, donc on va dire la concurrence est ouverte.
Ouais.
Libre et non faussée, voilà. Tout ça
pour dire qu'il faut lire Apollinaire, il faut lire et relire et redécouvrir Apollinaire.
Et notamment son œuvre en prose.
Et j'ai une petite pensée quand même puisqu'on va commémorer la guerre 14 l'année prochaine, au nombre d'écrivains qui sont morts pendant la guerre 14, je pense à Alain Fournier, je pense à Charles Péguy, mais il y en a tellement, tellement d'autres que je n'ai plus en esprit, sur cette grande boucherie qui a été quand même une hécatombe pour les écrivains et pour les artistes.
Mmh. En sachant quand même que, oui, Apollinaire avait tout fait en plus pour aller au front. Il avait eu des problèmes notamment de nationalité.
Comme Blessandra.
Voilà, il y tenait et il était très heureux d'être naturalisé français, passionné par la France et passionné surtout par Paris.
Mmh. Alors naturalisé, est-ce que c'est pour être naturalisé qu'il s'est engagé dans le conflit ? Parce que
c'est le contraire.
C'est le contraire.
Il voulait s'engager dans le conflit, il ne le pouvait pas parce qu'il n'était pas de nationalité française et il a tout fait pour l'obtenir in extremis à deux ans avant sa mort. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il ne fut que blessé pendant la guerre et ensuite il est mort de la grippe espagnole. Mais on a quand même considéré qu'il était mort pour la France, ce qui est un petit peu dommage pour nous parce qu'il a fallu, justement, on a eu les 30 ans supplémentaires en ce qui concerne ses droits d'auteur.
Il avait reçu un éclat d'obus dans la tête et il y a eu des multiples trépanations.
Voilà, il a été trépané et c'est vrai qu'a priori, sa non-résistance à la grippe découlerait un petit peu de l'invalidité résultante de son traumatisme crânien. Voilà pour Apollinaire, je renverrai les gens bien au site de Romaine Lubric, qui est tout simple, hein, c'est romainelubric.org, pour bien suivre la mise en ligne de Alcool au format IPE, c'est ça que tu disais ?
Il va y avoir différents formats, IPUB, PDF, mais la valeur ajoutée qu'on va apporter, qu'on a dès aujourd'hui, on vient de le mettre en ligne, c'est ce format IPUB qui sur les sites qui proposaient le même texte Alcool était, on le pense, de qualité moindre de celui qu'on propose aujourd'hui.
Il y a aussi d'autres pistes sur lesquelles vous pensez pouvoir lancer votre action avec Romaine Lubric, parce que sur votre site, on voit 26 propositions pour le domaine public en France. Peut-être pas détailler ces 26 propositions, non. Mais on va dire que toi, en tant que fondateur Framasoft, finalement, porter cette initiative Romaine Lubric, c'est aussi donner une suite à des tas de préoccupations et de compétences que tu as pu développer à travers ton expérience framasoftienne.
Il y a une forme de continuité, mais le site ne vise pas justement à être proactif sur politiquement, j'ai envie de dire, par rapport au domaine public. Il y a un volet pour un peu expliquer aux visiteurs qui tomberont sur le site ce que c'est que le domaine public, les enjeux, les questions, les problématiques. Mais nous, c'est avant tout valoriser ce qui existe déjà. Et donc, c'est la sélection qu'on va faire par rapport aux œuvres littéraires, cinématographiques, musical, etc. On a tout de suite mis sur le site une information, ça nous paraissait normal pour que les gens ne soient pas perdus, pour qu'ils comprennent un petit peu le domaine public et son projet, mais ce qui va s'étoffer avec le temps, ce sont avant tout la sélection argumentée, commentée, on a commencé avec le cinéma notamment.
Sur le site de Romaine Lubric, il y a aussi Apollinaire's Not Dead, Polémix et la voix off ont réalisé une émission spéciale autour d'Apollinaire. Donc, ça fait réagir des tas de gens.
Tout à fait. La semaine dernière, on a été enregistrer ça avec le mythique Polémix qu'on doit connaître ici à Divergence, ouais. J'imagine. Ça intéresse. Je pense que prendre comme point de départ cette entrée majestueuse d'Apollinaire dans le domaine public était une bonne idée pour lancer le projet.
tu parlais de cinéma, et à titre d'exemple de choses qui s'élèvent dans le domaine public, il y a aussi des choses qui s'élèvent dans le domaine public sans l'avoir voulu, par vice de forme ou vice de procédure, notamment dans le cinéma américain, parce que peut-être que c'est très compliqué aux États-Unis de maintenir ses droits en place. Ou quels sont ces quatre exemples?
Alors, c'est pas forcément très compliqué, c'est simplement que aux États-Unis, on doit déposer le copyright de ces œuvres, enfin, oui. En tout cas cinématographiques. En France, de fait, on les obtient et elles sont à nous, on a les droits d'auteur classiques, ne serait-ce parce qu'à partir du moment où on a créé un film, il nous appartient.
Le droit s'applique en France, par défaut.
Là, on doit déposer, et ce qui donne lieu à un dossier administratif avec des dates limites, etc. Notamment quand le titre d'un film change de nom, il faut le signaler. Etc. Et il y a certains films qui ont mal rempli leur dossier administratif, comme on remplit mal ses impôts, etc. Et à ce moment-là, ils tombent. Alors là, j'avais envie de dire tombe, mais enfin, pour les producteurs, parce qu'on l'a coup, ça fait mal, ça tombe dans le domaine public, et on se retrouve avec des films assez récents, qui pour vice de forme, comme tu dis, pour défaut de renouvellement de copyright, ou défaut de dépôt de copyright, sont dans le domaine. Les gens ne le savent pas forcément, sont dans le domaine public, et du coup, eh bien, on a le droit de les visionner, on a le droit de les télécharger, on a le droit de les partager, etc., etc. Et on a commencé, enfin, surtout Véronique, par... en visionner quelques-uns et en faire une petite analyse critique.
Juste comme ça, La Nuit des Morts Vivants, Charade, Détour, Le Drame du Vendredi.
C'est La Dame du Vendredi de Hawks.
La Dame du Vendredi, ouais. Oui, j'ai très mal lu.
Howard Hawks.
Qui ne sont pas forcément tous des films super récents, tout de même.
Non. C'est vrai qu'on a choisi de commencer par Détour, qui est un film de 1945, parce que là, justement, c'est un peu un cas d'école. C'est-à-dire que c'est un film initialement qui a été réalisé avec trois bouts de ficelle, considéré comme un film de série B, justement, alors qu'une mère a quand même été l'assistante Murnau au moment de l'aurore. Enfin bon, voilà. Et c'est typiquement un film qui a été redécouvert, revalorisé, parce qu'effectivement, si on le revoit aujourd'hui, il est extrêmement intéressant à bien des égards. Le scénario est tout à fait intéressant. Il y a des effets visuels très, 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 très novateurs, j'ai envie de dire. Donc voilà, on a pensé que ça pouvait être bien d'ouvrir notre sélection par celui-ci. Après, effectivement, il y a La Nuit des Morts Vivants de Romero, de 1968.
C'est un classique.
Qui est un classique et qui a inauguré justement la série de tous les films de morts vivants de Romero.
Fait avec des bouts de ficelle.
Fait avec aussi. Des bouts de ficelle aussi, mais tout aussi intéressant au niveau cinématographique, au niveau vraiment de la richesse esthétique. Et puis voilà, une comédie de Hawks extrêmement brillante, qui a un très très bon rythme. On a essayé justement d'aborder plusieurs types de films sur notre site.
Voilà, on a aussi envie de dire, notamment à la nouvelle génération, il n'y a pas que les blockbusters dernier cri, il y a des films à redécouvrir qui valent le coup et et pour lesquels qui sont accessibles à tout le monde aujourd'hui puisqu'ils sont dans le domaine public.
Alors il y a un truc quand même aussi qui est un petit peu paradoxal, c'est que si on va sur YouTube aujourd'hui, on peut accéder à des vidéos, certes de qualité extrêmement dégradée pour la plupart du temps, mais je pense par exemple à tous les concerts ou toutes les vidéos de Frank Zappa, on les retrouve sur YouTube, alors que le Zappa Family Trust est presque aussi pire que la famille Picasso en termes de je vais vous poursuivre si vous faites ceci, si vous faites cela. Alors j'imagine que YouTube a des accords officieux avec les ayants droit ou ils se débrouillent,
pas
ou
forcément,
alors...
Mais YouTube, ils attendent que les ayants droit leur spécifient que c'est illégal, que telle vidéo est illégale. Si jamais on ne leur dit pas, ils laissent. Ça les arrange bien, parce qu'évidemment, il y a de plus en plus de monde qui arrive, qui visionne. Donc, je pense que tout ce qui concerne Frank Zappa est purement et simplement illégal. Nous, on cherche justement à faire une sélection de films dont on sait, ce qui n'est jamais simple, parce que le cinéma est une œuvre collective. Et par exemple, quand on parlait des 70 ans, il faut attendre les 70 ans après la mort du réalisateur, du scénariste, de celui qui a fait la musique, etc., d'un certain nombre de personnes.
Et du producteur, peut-être aussi.
Et peut-être du producteur. Ça, je ne sais pas.
Oui, parce qu'il y a des films qui appartiennent pas à leurs auteurs, mais qui appartiennent aux producteurs.
Et oui, mais le producteur, comme ça peut être aussi une famille. Si Gallimard, c'est l'éditeur d'Apollinaire, donc si on attend la mort, entre guillemets, de Gallimard, éditeur, on risque d'attendre longtemps. Donc c'est justement, en tout cas, ça pose plein de questions assez complexes.
Alors je faisais cette référence par rapport à YouTube, c'est que le plus grand public, le plus grand nombre de personnes qui se disent est-ce que ça va être facile pour eux de se dire tiens, le domaine public c'est intéressant, Alors que, illégal ou légal ou pas légal, bah, finalement, ils ont pratiquement tout sur les plateformes de streaming, etc. Et du coup, cette situation, sur le plan légal, devient tellement floue et tellement bizarre et tellement contradictoire, etc., que est-ce qu'on a une chance pour que les gens rentrent dans cette compréhension-là et s'informent et s'acculturent là-dessus ?
Ouais, c'est tout le challenge, j'ai envie de dire. Mm-hmm. Jeudi dernier, on est allé rencontrer l'équipe du cinéma Utopia, ici, à Montpellier, pour lui proposer une soirée autour, justement, de films et de courts-métrages du domaine public, parce qu'on a envie de faire connaître ce patrimoine, en fait, patrimoine qui nous est commun, hein. Et le faire aussi descendre un petit peu d'Internet, j'ai envie de dire, pour qu'on aille à la rencontre des gens. C'est pas si simple, parce qu'effectivement, la jeunesse a pris certaines habitudes. Ils ont tendance à plus consommer des séries américaines qu'autre chose, d'ailleurs, ou des blockbusters ou des séries américaines. Ce sont toujours des généralités abusives, hein, mais bon, il y a effectivement un danger. Et le slogan premier de Romain Lubric, c'était le domaine public ne s'use que si l'on ne s'en sert pas, tu vois, quelque chose comme ça. Voilà, donc nous allons-y. Il y a des on arrive en 2013, justement, à une époque où les premières œuvres, les grands du muet, les grands du muet, Véronique, tu peux me citer quelques noms.
Cécile B2000, par exemple, Stroheim ensuite,
voilà.
Enfin, il y a plein de choses
Murnau. Et puis on a les premiers Hitchcock, on a les Fritz Lang, on a aussi Metropolis, etc. Donc il y a ce qui a fait l'histoire du cinéma et dans le domaine public, et profitons-en, quoi, j'ai envie de dire.
On va aussi profiter d'un petit peu de musique dans cette divergence numérique exceptionnellement principalement parlée, justement avec les variations Goldberg de Bach et une pianiste assez atypique, j'ai envie de dire.
Oui. Alors Kimiko, rappelle-moi son nom de famille, parce que je ne suis pas un grand spécialiste.
Ishizaka.
Donc pianiste japonaise qui vit en Allemagne, mariée avec un Américain. Et c'est cet Américain qui porte un projet qui s'appelle Open Goldberg Variation, qui vise à faire entrer... Donc Bach, ça fait longtemps qu'il est dans le domaine public. Pas de problème. Mm-hmm. Mais alors... Pas du tout pour ce qui concerne les interprétations de Bach par les orchestres, par les musiciens. Non, du tout, ça appartient. On retrouve les droits d'auteur classiques.
Oui, parce qu'il y a un droit d'interprétation.
Voilà, les droits, ce qu'on appelle les droits voisins, qui étaient de 50 ans et qui vont eux aussi passer à 70 ans. Ce qui fait que moi, par exemple, à la base, je suis enseignant. Imaginons que je fasse écouter du Bach à mes élèves. Eh bien, il faut que j'achète un album avec... Ou alors je me mets dans l'illégalité, je télécharge ce qui existe sur Internet ou je leur fais passer une vidéo YouTube, mais je n'ai pas le droit en théorie. Ou alors j'achète non seulement pour une écoute privée, mais pour une écoute publique avec mes élèves, ce qui est généralement un coût supplémentaire. Là, ce qui est intéressant avec ce projet, c'est qu'on va payer une seule fois la pianiste pour qu'elle interprète et enregistre, en l'occurrence c'est les variations Goldberg, un prix qui n'est absolument pas au rabais. Il ne s'agit pas du tout de parce qu'on nous fait souvent le procès, oui, mais tout ce qui est un petit peu partage, machin, avec le bénévolat, vous faites ça plus ou moins gratuitement. Non, là, le premier album qui a été enregistré il y a 2 ans, le projet a demandé quelque chose comme 25 ou 30 000 dollars, c'est pas rien, par souscription sur Internet, un peu ça, du crowdfunding. Ça a fonctionné, c'est-à-dire que les gens ont trouvé que le projet était intéressant. Et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on paye une fois, et ensuite, ça va directement dans le domaine public. Et non seulement l'enregistrement, mais de qualité. Il n'y a pas que des MP3. Sur le site, il y a le format.
On peut télécharger en WAV, etc.
Les formats sans perte. Et puis aussi la partition, parce que les partitions donnent aussi lieu à des droits d'auteur. Les maisons d'édition qui impriment, simplement par la mise en forme, ce sont leurs partitions. Là aussi, on n'a pas le droit de les copier, de chercher, de les imprimer.
Ça, c'est quand même dégueulasse.
Ça, c'est un petit peu abusif, ouais.
Ouais.
Ben, en l'occurrence, ce projet-là propose également les partitions, et les partitions qui ont été éditées sur un logiciel libre. C'est là où on arrive à recoller les morceaux avec Framasoft, qui s'appelle...
Muse.
Ouais, qui s'appelle MuseScore.
MuseScore,
oui. MuseScore, et qui est parmi les développeurs, il y a un Toulousain, d'ailleurs.
Et voilà. Et donc, cette pianiste a plus d'un tour dans son sac, j'ai envie de dire, puisque tu me disais tout à l'heure qu'elle a embrassé une carrière d'haltérophile, parce que, je sais pas, elle trouvait que les touches du piano, le toucher n'était pas assez lourd. Et ça dénote quand même d'une sacrée personnalité.
Tout à fait. elle a été championne d'Allemagne d'haltérophilie. Alors, je ne sais pas quelle spécialité, jetée, épaulée jetée, je ne sais pas quelle catégorie, mais donc on a une pianiste championne d'haltérophilie.
Voilà, et qui n'est pas une pianiste pour rien non plus, comme on pourra peut-être s'en rendre compte au mois de juillet 2014.
Voilà.
Si on arrive à la faire venir et à la faire jouer dans le cadre des rencontres mondiales du logiciel libre.
Voilà, on espère la faire venir, éventuellement qu'elle se produise dans un lieu prestigieux ou une église ou avec une belle,
voilà, belle acoustique.
Voilà, exactement. Donc ça fait partie des projets. Donc aussi bien une soirée consacrée au domaine public à l'Utopia qu'un concert avec cette pianiste spécialiste de Bach.
Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, c'est opengoldbergvariation@.org où on retrouve eh bien, la musique et tout le reste. Et puis, avant de refermer cette émission, car le temps passe, bien parler un petit peu aussi de ce qui risquerait bien de se passer aussi à l'Utopia dans le cadre des RMLL 2014, où là, il s'agirait de faire pareil, de la musique à l'image, ce qui a le vent en poupe en ce moment.
Oui, Véronique, si tu veux présenter...
Oui, bah c'est une ultérieure façon de revaloriser des choses qui sont peut-être un petit peu oubliées, tombées dans l'oubli justement. Il s'agirait cette fois d'aller chercher des courts-métrages, notamment de Chaplin ou de Keaton, et de proposer un petit peu de musique en même temps. Et en l'occurrence, ce serait avec de l'accordéon.
Voilà, de la musique live.
De la musique ?
En live, c'est-à-dire.
Ah oui, de la musique live.
Ce qui se fait souvent.
Le ciné-concert, ce qu'on appelle le ciné-concert. Mmh, mmh.
Ouais. Qui revient sacrément à la mode. Hein. Même les gens de la MMD, au Mans, ont monté un nouveau groupe, le Baron et ses cachottes, je ne sais plus quoi, où ils font exactement ça, c'est-à-dire de faire de la musique sur du cinéma muet.
Oui, parce que je ne sais pas si tu as déjà vu les films de Keaton tels qu'on les vend sur DVD ou autre. Il y a une espèce de musique de synthétiseur faite en vitesse qui est complètement décalée par rapport à l'action qu'il y a à l'image. Et c'est une perte terrifiante par rapport à la force que peut avoir le film.
Et pourquoi ça revient à la mode ? Tout simplement parce que ces courts-métrages sont aujourd'hui... Où ça ? Ils sont entrés dans...
Ils sont élevés dans le,
élevés dans le domaine public. Et justement, le fait d'être dans le domaine public, ça favorise tous ces projets multiformes qui partent dans tous les sens. Et donc, par rapport à ce qu'on envisage pendant les rencontres mondiales cet été à Montpellier, donc un temps de court-métrage en musique live, un temps pour un long-métrage sélectionné par nos soins avec l'équipe d'Utopia. Donc, on va aller choisir un bon film du domaine public plutôt comédie, j'ai envie de dire, enfin, parce que les rencontres mondiales, ce sont des conférences, des ateliers pendant une semaine, là, on va se détendre un peu.
Bon. Voilà.
Et puis peut-être une petite discussion à la fin, une table ronde autour de toutes ces problématiques et ces enjeux du droit d'auteur, du domaine public, du cinéma, de la numérisation du cinéma qui pose un certain nombre de questions, voire un certain nombre de problèmes.
Eh bien, je crois qu'on va refermer ici cette émission en rappelant que eh bien romainelubric.org, comme ça se prononce. Et puis, que dire de plus, si ce n'est que peut-être la démocratie, c'est un petit peu comme le domaine public, c'est votre domaine. Alors vous qui nous écoutez, préoccupez-vous-en, informez-vous, militez, battez-vous et surtout, restez libres jusqu'à la semaine prochaine. On vous remercie, Alexis, Véronique et Florent. En vous souhaitant à vous aussi une bonne semaine et de rester libre. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Thank you.
Vous ne savez pas pourquoi vous aimez les loutres, mais vous savez pourquoi vous aimez les logiciels libres.